Bonsoir, c'est un plaisir de me retrouver de nouveau avec vous. Et donc pour cette étude du jeudi soir, eh bien nous continuons dans le livre des Actes des Apôtres, ce récit de l'Église primitive. Et donc je vais lire à partir du chapitre 6, donc Actes chapitre 6, et je vais lire les 6 premiers versets. Actes chapitre 6 et les 6 premiers versets. Nous dit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère par la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voilà, première remarque, donc le chapitre 5, c'est la fin d'une section, donc une période. C'était une période où il y avait des problèmes avec le Sanhédrin, et donc les choses se mettent en place, et ça se termine, le chapitre 5 se termine avec chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là, on va commencer une nouvelle section, donc avec le chapitre 6, une nouvelle section qui ira jusqu'au chapitre 12 et qui va un peu décrire cette transition entre où on commence à introduire les païens, les non-juifs ou les juifs hellénistes dans le cadre de l'Église. C'est une transition. Et donc ici, ce chapitre 6... Eh bien, ce petit récit qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà, ça nous présente Étienne, un helléniste qui a une grande influence dans l'Église. Et puis de là, avec le martyr d'Étienne, ça va nous présenter Saul de Tarse. Nous allons aussi voir Pierre qui va chez Corneille, donc l'évangile qui arrive chez les païens. Et puis de là, eh bien, on va avoir des hommes qui vont à Antioche parce que là, il y a dans l'Église, il y a des païens qui se convertissent. Et donc là, c'est une section là aussi qui nous permet de décrire un moment de transition et où le Seigneur a utilisé certains hommes et certains événements pour assurer cette transition, parce que ça se serait pas fait naturellement. Et bien sûr, c'est là, avec Étienne, que va être inaugurée une période de persécution aussi. Et la période de persécution, elle permettra à l'Église de se disperser. Et c'est là où l'Évangile ira non seulement de Jérusalem en Judée, mais de Judée en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, selon le plan que Jésus a donné aux disciples. Donc... Premier détail ici dans ce passage, il nous dit que justement il y a des clivages dans l'Église. Il y a ceux qui sont hellénistes, ce sont des juifs de culture grecque. Et puis il y a les Hébreux qui sont eux de culture, c'est-à-dire c'est ceux qui sont venus de Babylone, qui sont revenus de Babylone, ils parlent l'araméen et puis les autres parlent du grec. Non, mais ils sont juifs, mais... Les hellénistes vont être plus progressistes parce qu'ils vont être sous l'influence de la culture grecque. Et les Hébreux, ils vont être un peu plus conservateurs parce qu'ils vont être attachés à une école qui vient de Babylone et qui est plus ancienne. Et ça crée des clivages qui apparaissent même dans l'Église, parce que même quand on est sauvé et on devient enfant de Dieu, on a quand même des bagages qu'on amène du passé, de notre arrière-plan. Et donc ça crée des problèmes. Ce qui est, et c'est toujours le cas, et c'est étonnant, c'est que ce n'est pas un gros problème de doctrine qui va créer des petites tensions dans l'Église, mais c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une question de distribution qui se fait aux veuves. Hein, c'est, en général, ce qui déclenche un gros problème, c'est des petites choses, des détails, des petites choses pas très importantes, mais qui vont mettre à jour une situation, une tension qui est là et qu'on va pouvoir traiter. Ce qui est intéressant, c'est que à la fin du chapitre 5, il nous dit qu'il ne cessait d'enseigner la parole, d'annoncer la bonne nouvelle, les choses vont bien. Et puis au chapitre 6, verset 7, il nous dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. » Donc, ça se termine bien là, ça continue bien là. Donc, ça veut dire, tout de suite, on sait qu'ils ont bien réglé le problème. Hein, c'est une première chose, c'est beaucoup de sagesse, c'est pas une question de gros problème, c'est une question de le régler. Et cette tension-là, on va pas la revoir, elle va se régler. Et c'est intéressant comment ils la règlent. Les apôtres qui ont peut-être une autorité, un pouvoir, eh bien, ne vont pas s'imposer, ils vont suggérer une solution, ils vont dire, écoutez, choisissons sept hommes et à qui on confiera sa tâche de gérer la distribution aux veuves, et puis nous, on continuera notre travail, on va se concentrer sur notre tâche principale, celle de la prière et du ministère de la parole. Et donc, c'est une question de mettre les priorités à leur place, et puis ensuite, et de gérer le problème. Donc, une situation apparaît. Les disciples, les apôtres ne vont pas inaugurer un nouveau poste dans l'Église. Ils ne font que choisir des hommes, un comité, on va dire, pour être un peu moderne, ils vont choisir un comité qui va se charger de gérer ce problème et qui n'existe que pour ce problème. C'est pas une fonction qui va exister dans l'Église. Il y a pas souvent on parle ici de diacre, mais bon, ça ressemble un peu au diacre, mais c'est pas vraiment. Et nulle part est-ce qu'ils sont appelés des diacres. En fait, au chapitre 21, verset 8, il fera référence à Philippe et dira l'un des sept. Et finalement, c'est ce qu'ils ont été appelés, l'un des sept. Hein, c'est le groupe des sept. Et c'est compris que ce sont ces sept-là qui vont gérer ce problème. Et puis, bon, avec la persécution, certainement que les choses vont changer et on n'aura plus besoin d'eux. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de groupe de sept aujourd'hui dans nos églises. Hein, c'était quelque chose. C'est un problème, c'est un piège dans lequel on tombe souvent en tant que chrétien dans nos églises, c'est qu'on crée quelque chose, mais on ne fixe pas la durée. Et donc après, ça se perpétue, et on ne sait pas quoi faire, et parfois ça devient des structures qui sont lourdes, et finalement, comme on a un conseil de diacre, donc il faut qu'on aime quelqu'un. Non, les serviteurs de l'Église sont là pour répondre à un besoin. Tant que le besoin existe, ils sont là. Quand le besoin n'existe plus, eh bien, c'est la fin de cette responsabilité. Donc, c'est la première leçon, c'est que ce n'est pas de créer des fonctions et des postes, c'est de trouver des réponses à une situation pour pouvoir la gérer et correctement. Et ils ont bien fait et les choses se sont bien passées. Une autre chose que vous remarquez, que ce ne sont pas les apôtres qui ont choisi des hommes, mais ils ont laissé la congrégation choisir. Hein. Il dit, frères, choisissez, hein, vous choisissez. Ils leur ont quand même donné des critères, et c'est intéressant que pour servir des tables, Donc, certainement qu'il y avait un peu de comptabilité, certainement qu'il y avait la réception de la marchandise, certainement qu'il y avait l'achat, il y avait ces responsabilités. Mais regardez ce qu'ils ont recherché. Ce n'est pas des gens qui ont de l'expérience, mais c'est des personnes, il a dit, choisissez des hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Il n'a pas dit choisissez des hellénistes ou des hébreux, ou qu'il y ait 4 hébreux et 3 hellénistes. C'est comme ça qu'on gérerait les choses aujourd'hui. Hein. On essaie de répartir en fonction du pourcentage de gens dans l'église et faire les choses comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont réglé. Ils ont dit choisissez des hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse. Et en prenant des critères pareils, on a des hommes qui sont au-dessus de ces clivages. Hein, ce sont des hommes qui sont ni hellénistes, qui se considèrent ni hellénistes, ni hébreux. Ils sont au-dessus. Hein. Donc, il y avait une sagesse là. Et donc, c'est important. Je comprends que notre société civile, elle est obligée de prendre des représentants et que tous les groupes et tous les mouvements et tous les partis soient représentés. C'est la représentation et c'est comme ça qu'on gère quand ce n'est pas une œuvre spirituelle. Mais dans l'Église de Dieu, ce n'est pas de la représentation pour représenter toutes les différentes idées. C'est une question d'avoir des gens qui sont au-dessus de toutes ces clivages et ces différences et qui sont sages, remplis de l'Esprit-Saint, et de qui l'on rend un bon témoignage. C'est-à-dire, tout le monde reconnaît que ces hommes sont au-dessus du problème. Et il dit, et puis nous leur confierons, hein, nous leur confierons cette charge, nous leur chargerons de cet emploi, hein, et le mot « servir aux tables », c'est le même mot que la distribution, c'est le fait de servir. Et il dit, et comme cela, nous, on ne sera pas distrait de nos responsabilités de la prière et du ministère de la parole dans l'Église, hein, l'enseignement. Ils savaient quelle était leur responsabilité et ils sont restés à cela. Donc, il y a eu une élection, il y a eu un choix. Hein, je ne sais pas si c'était un bulletin secret, mais bon, la question c'est qu'il y a eu un choix et il y a 7 noms qui sont remontés. Et il nous dit qu'ils élurent, hein, donc c'est pas les apôtres qui les ont choisis, les frères, donc l'assemblée qui les a choisis. Et il nous dit qu'ils élirent Étienne, que c'est le même nom que Stéphane, hein, et dit de lui que c'est un homme plein de foi et d'esprit saint. Hein, donc voilà sa réputation déjà. Ensuite, il y a aussi Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas. En regardant ces noms-là, eh bien, on voit très vite que ce n'est pas des noms hébreux. C'est tous des noms grecs. Finalement, ceux qui ont été choisis, c'était justement des hellénistes. Hein, vous avez Étienne, qui vient du mot grec Stéphanos, qui veut dire une couronne. Vous avez Philippe, qui vient du mot grec qui veut dire celui qui aime les chevaux. Vous avez Procor, son nom veut dire le meneur de la danse. Nicanor, qui veut dire le conquérant. Timon ou Timone, c'est un peu comme le même nom que l'hôpital à Marseille, hein, la Timone. Timon, ça veut dire honorable. Parménas, c'est le nom qui veut dire constant, et c'est l'équivalent en français, ce serait constant. Et après, il y a Nicolas qui veut dire le vainqueur du peuple. Donc, tous des noms païens, qui n'ont aucun sens, qui font référence à rien de spirituel. Donc, c'est même pas il ne vient pas de familles qui leur ont donné des mots bibliques ou avec des valeurs bibliques, c'est des païens. Mais c'est des hommes qui remplissent ces critères, de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint, ça veut dire qu'ils sont sous le contrôle de l'Esprit Saint, et qui sont pleins de sagesse. Et ça a été constaté. Donc, ce n'est pas basé sur leur profession, ni basé sur leur éducation, ni basé sur leur ancienneté. C'est basé sur des qualités spirituelles. Et ils les ont présentés aux apôtres qui ont imposé les mains, non pas pour leur donner l'Esprit Saint, ils l'avaient déjà. Donc ils étaient déjà sous le contrôle, ils n'avaient rien à leur donner. Mais c'était une manière de leur attribuer leur approbation. Donc l'élection a donné l'approbation de la congrégation, l'imposition des mains a donné l'approbation des apôtres, et donc ces hommes ont été reconnus. Ces hommes, certainement, qu'ils étaient connus, non pas parce qu'ils savaient bien servir les tables de par leur profession, parce que c'était des hommes qui s'étaient certainement, qui avaient déjà actifs dans l'Église, on avait vu déjà leur qualité spirituelle, parce que très vite, on va arriver à Étienne, qui a une capacité extraordinaire de défendre la Bible, Philippe, qui sera un évangéliste, et les autres, on ne les connaît pas trop bien, sinon il y a Nicolas, qui est prosélyte d'Antioche, et plus tard on va en train de parler d'Antioche, mais qui vient, c'est un non-juif, qui s'est converti au judaïsme, et qui est là, voilà, c'est déjà cette variété est en train d'apparaître dans l'Église, cette maturité, où on choisit les hommes non pas en fonction de leurs origines, mais on les choisit en fonction de leur consécration à Dieu, et de leur service à Dieu, et de leur travail pour Dieu. Nous avons des leçons à tirer pour nous-mêmes, des priorités qui sont affirmées et établies dans l'Église. D'abord, le ministère de la prière et de la parole, ça, c'est intouchable. Ça, on le préserve, on le garde. C'est dans l'Église primitive et ça doit être quelque chose de valable dorénavant, jusqu'à un autre jour. Deuxièmement, même si l'Église n'était pas contre l'œuvre sociale, la distribution de repas ou des fonds pour les veuves, c'est du social, mais ce sont d'autres personnes qui sont consacrées à cela, ça ne remplace pas le ministère spirituel. On préserve le ministère spirituel, et s'il y a du social à faire, parce qu'il y a certaines circonstances, donc on peut le faire. Et là, on consacre des hommes qui remplissent des qualités spirituelles pour faire ce travail. Et ensuite, une autre chose, c'est que quand on choisit des responsables, on ne donne pas des postes à quelqu'un pour le responsabiliser, mais on prend des gens déjà responsables à qui on confie des responsabilités. Parfois, on essaie d'élire des gens et donner des tâches, distribuer des tâches dans l'Église pour que la personne reste dans l'Église. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des personnes qui sont déjà responsables, qui sont déjà fidèles, qui ont déjà démontré leur engagement dans l'Église et la vie de l'Église et l'œuvre de Dieu. Et c'est de parmi eux qu'on choisit des personnes à qui l'on confie des responsabilités. Et donc, une Église qui respecte ce principe-là ira beaucoup plus loin et aura moins de problèmes. Et là, finalement, le problème, il était bien réglé. On n'entend plus parler de ce problème-là. Il ne réapparaît plus. Troisièmement, c'est une Église, et dès le début, on ne choisit plus en fonction des arrière-plans ou de la culture, mais en fonction des qualités spirituel. Et ça, c'est très important. Et donc, je le souligne, et il faut que ça soit toujours vrai. Une Église peut être composée de gens de toutes sortes d'arrière-plans, de niveau social, de niveau économique, d'éducation différente, peu importe. Ce qui importe, c'est qu'ils aient un bon témoignage dans l'Église. Et par ailleurs, à Timothée, Paul dira qu'il a un témoignage auprès de ceux du dehors aussi, qu'ils aient un bon témoignage auprès de ceux du dehors. Et puis aussi, qu'ils soient pleins de l'Esprit Saint et de sagesse. bien sûr, la sagesse d'en haut. Hein. Pas d'éducation, de la sagesse. Pas des connaissances, de la sagesse, du discernement. Et c'est là la réponse, et ce qui permet, et donc c'est dans ce contexte-là, c'est ainsi qu'on va reconnaître d'où viennent et Étienne, hein, dès le chapitre 7, et d'où vient Philippe plus tard, qui portera l'évangile aux Samaritains. Hein, et donc c'est cette transition qui est là. Donc finalement, des hommes qui ont été choisis pour des tâches, disons, de gestion, hein, eh bien, parce qu'ils ont des valeurs, des qualités spirituelles, eh bien, ils iront beaucoup plus loin et Dieu se servira d'eux pour faire une œuvre plus tard. Hein, ça me fait penser à cette parole du Seigneur qui dit « Si on est fidèle dans les petites choses, on le sera dans les grandes. » Et donc, démontre tes capacités de vivre pour le Seigneur et puis on te confiera des tâches. Et c'est ici, c'est ce principe est illustré là. Et donc, voilà. Et donc, c'est pas l'institution des diacres, comme on le voit en titre là, on a un problème, on établit des personnes pour régler ce problème, et leur comité ne dure qu'aussi longtemps que le problème. Quand le problème n'est plus, eh bien, on dissout le conseil. Hein, et on crée autre chose en fonction des problèmes. Donc voilà. Mais l'attitude, eh bien, ce sont des gens qui sont là pour servir. Hein, et c'est le service. Et Jésus a bien dit, il a dit celui qui veut être premier, eh bien qu'il soit le serviteur de tous. Hein, c'est ce principe-là que nous voulons mettre en valeur, que nous voulons reconnaître. Et le Seigneur bénira et on pourra avoir un bon témoignage ici à Fréjus, dans notre Église, et être une source d'inspiration pour beaucoup. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que le Seigneur œuvre parmi nous. Donc le Seigneur vous aide, vous encourage, et pendant cette période où nous sommes de confinement et où nous sommes, ne pouvons pas sortir, et bien profitons de ce temps pour étudier la parole, pour regarder un peu dans celui qui on voit dans le miroir, et puis de voir s'il n'y a pas des choses à mettre au point, des choses à régler, prendre le temps, discuter, s'investir un peu dans sa famille, si on a une famille autour de soi, et puis c'est un moment de mettre de l'ordre dans sa vie, et puis de mettre de l'équilibre dans sa vie, et afin de... et nous, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on pourra repartir plus rapidement que certainement l'économie de notre pays et tout ça. Hein, ça prendra du temps. Mais nous, on sera prêts, et dès qu'on est libérés, eh bien, on pourra se mettre à l'œuvre du Seigneur et être utilisé par le Seigneur. Donc, le Seigneur nous aide. Je vais conclure par la prière. Père Céleste, nous te remercions encore une fois parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu donnes la sagesse. Et Seigneur, tu nous donnes des principes là, et ce qui est le petit problème, ce n'est pas la chose, c'est comment ils ont réglé le problème. Hein, si on sait régler les petits problèmes, on saura régler les grands problèmes. Seigneur, donne-nous de tirer des bonnes leçons, et puis surtout, donne à nos églises des hommes matures qui pourront servir et qui pourront assumer les charges. Et Seigneur, aussi que nous puissions préserver ce ministère de prière et d'enseignement de la parole, ça doit rester intact. Et ça, c'était une priorité pour ces apôtres, et nous voulons que cela soit aussi vrai dans notre Église. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Et je te prie pour chacun qui se rattache à cette Église, Seigneur. Tu sais là où il est, on ne peut pas se voir physiquement, mais Seigneur, c'est toi qui fais le lien, hein, c'est toi qui nous unis, et donc nous te prions de faire ce travail en dessous, pour que finalement, lorsqu'on se retrouve, on trouvera qu'on a fait des progrès, qu'on est ensemble encore plus proches les uns des autres. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.